La vie après Siham. Il est autour de 7h30 quand je suis réveillé par l'appel de ma sœur. On est le mercredi 25 février et ça y est, c'est fini. Alors machinalement, je m'habille et je sors. De ce trajet, je n'ai aucun souvenir. Ni du métro, ni de la rue, ni même du temps qu'il fait ce jour-là. Je me rappelle même pas du nom du centre de soins palliatifs, je sais juste qu'il est au 15e arrondissement. Je me revois dans l'ascenseur. Mon premier réflexe est d'allumer la caméra de mon téléphone portable et de filmer. Je filme ma main qui appuie sur le deuxième étage, tandis que les portes de l'ascenseur se ferment. D'ailleurs, est-ce que je m'en souviens? Ou est-ce que c'est le film qui s'en rappelle pour moi? La caméra est ma confidente. À ses côtés, je me sens moins seul. Elle garde les traces de cette réalité qui glisse sur moi. Une des dernières fois où j'ai vu ma mère, elle n'avait plus la force d'articuler. J'avais continué mes blagues, même si elle ne la faisait plus rire. Puis, on avait trouvé le moyen de communiquer grâce à une grille sur laquelle elle pointait laborieusement avec ses doigts les lettres de l'alphabet pour constituer des mots. Son dernier message avait été clair. Reste avec moi. J'avais préféré m'éclipser. Je me présente au stand des infirmières. L'une d'elles me reconnaît, confuse. L'avant-veille, je devais rendre visite à ma mère et y emmener ma fille Mathilde, de 5 ans. Mais j'en avais tellement pas envie que j'avais téléphoné au centre, espérant qu'il me décharge de ma culpabilité en m'autorisant à retarder ma visite, comme s'ils avaient les moyens de savoir quand ma mère allait mourir. L'infirmière ce jour-là avait été très rassurante. Nous sentons quand les gens arrivent à leur dernier souffle. Et c'est pas le cas de votre mère, rassurez-vous. Vous pouvez sans problème reporter votre visite à jeudi ou vendredi. J'avais acquiescé soulagé. Ah, du coup je peux venir jeudi alors. Oui, pas de souci, jeudi c'est très bien. Et me voilà ce mercredi, dans le couloir, face à cette même infirmière. D'un filet de voix, elle se confond en excuses, ne comprenant pas comment l'état de ma mère a pu se détériorer si rapidement dans la nuit. Elle se sent coupable, je la rassure. La chambre de ma mère est au bout du couloir. Derrière cette porte que j'ai ouverte plusieurs fois, cette fois ma mère n'est plus là. Son corps y est toujours, mais plus elle. Les infirmières ont pris soin de faire sa toilette, de lui fermer les yeux. Mais elle n'est plus là. Avant, parfois, je bouchais le nez de ma mère pendant son sommeil pour qu'elle réagisse, pour qu'elle s'énerve, et ça me faisait rire. Devant elle, enfin devant son corps, à nouveau, presque inquiet, j'approche une main timide de son visage et je refais ce geste. Je touche craintivement sa peau froide, je lui pince le nez. Et je constate qu'elle ne réagit pas. C'est violent le silence d'un corps sans âme. Où est ma mère? Où est-elle si elle n'habite plus dans ce temple-là? Et moi alors, je suis face à quoi? Ce corps inerte que je touche, est-ce que c'est encore ma mère? Il est là, propre, habillé. Une infirmière me rassure, ma mère est morte en paix. Moi, je ne peux m'empêcher de l'imaginer au moment où elle n'a plus réussi à respirer, à cause de cette langue qui avait trop gonflé. Et je l'imagine en train d'étouffer. Elle est morte seule dans sa chambre, asphyxiée. Et je n'étais pas là. Avant de sortir de la chambre, je ressors mon téléphone et je prends une photo de sa main. Puis une autre, d'elle allongée, filmée à travers l'encadrement de la porte, comme si tout cela était un film, une pièce de théâtre ou un mauvais rêve dont je mettrais des années à comprendre qu'il s'appelle réalité. Je suis dans mon lit, il est 7h30 et le téléphone n'a pas sonné. À l'heure où j'écris ces lignes, 8 ans sont passés. Avec le sentiment que c'est une part de moi qui est morte ce mercredi 25 février et qu'elle ne ressuscitera pas. Ce jour-là a commencé le début de ma nouvelle vie. Ma vie après Siham.